10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous le retrouver. Vous le savez, comme tous les jours d'ailleurs, nous sommes ensemble dans les informés. Et les informés, c'est ici que ça se passe puisque nous commentons, analysons et décryptons l'actualité. Je vous le disais, je vais parler des élections tous les jours. Parce qu'il est important aujourd'hui d'en parler, parce qu'il est important de voir si vous voulez, évidemment, poursuivre votre mobilisation. Et puis surtout, le danger Marine Le Pen, on posera la question, existe-t-il? Il y a trois sujets qui ont retenu notre attention. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a une nouvelle méthode dans cette nouvelle campagne? Est-ce qu'il veut s'adoucir? Est-ce qu'il veut en tout cas écouter un peu plus durant sa tournée pour aller à la rencontre des Français? C'est les questions qu'on soulève ici même avec les débatteurs influenceurs. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Et on démarre cette émission avec le Quad 9, c'est parti.
Les informés, le Quad 9.
Le Quad 9, vous le savez, c'est également avec Fabrice Divisio. Bonjour maître.
Bonjour.
Maître Divisio, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur et j'ai bien compris que vous vouliez parler du mépris, c'est l'autre.
Ben, bien sûr, mon cher ami.
Oui.
Car l'heure est grave, le fascisme est à nos portes. Oui, Adil, le fascisme, vous avez entendu, n'ayons pas peur des mots. Je tremble de peur, je pleure de désespoir, le fascisme, le fascisme. Il faut faire barrage, avec nos corps si besoin, mais il faut barrer la route au fascisme. Jetons-nous dans la bataille contre le fascisme et ensemble crions « Non pas Saran !» Sortons les fourches, les délibes et les autolibes, mais luttons, mon cher ami. Dimanche, disons non au fascisme, je vous dis. Quoi ? Comment ? J'ai pas entendu. Vous m'avez demandé « Qu'est-ce que le fascisme ?»
Oui.
Mais enfin, vous le savez bien,
oui.
Le fascisme, c'est l'autre. L'autre, là. Non, pas l'enfer. Non, le fascisme, je vous dis. Je ne veux pas prononcer son nom, de peur de la faire exister. Je ne peux prononcer le nom du mal absolu, sous peine de lui donner quelque dignité. Le fascisme, c'est l'autre, vous dis-je. Vous m'avez compris, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon, d'accord. Je vous donne quand même, et juste parce que c'est vous, une définition, ou disons au moins une courte caractérisation du fascisme. La meilleure que j'ai trouvée, c'est celle d'Albert Camus, pour qui le fascisme, c'est le mépris. Inversement, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. Bah ça alors. Alors là, pour être honnête, j'ai un souci. Le fascisme, mon cher Adil, c'est le mépris. Mais, je ne comprends plus et je ne peux un instant me résoudre à considérer cette stupide définition. Car le fascisme, Adil, c'est l'autre, je vous ai dit. Toute forme de mépris instaure ou prépare le fascisme.
Oui.
Mais je comprends pas. Le fascisme, c'est l'autre, bordel. Du coup, j'y piche plus rien. C'est qui le fasciste de l'histoire? Parce que je comprends pas. Comment ça s'appelle? Quelqu'un qui, en gros, veut emmerder amicalement, bien sûr, les non-vaccinés, qui dit que les irresponsables sont des sous-citoyens, qu'il faut tenir bon car on les aura, ces connards. Quelqu'un qui croit, figurez-vous, dans les gares, des gens qui ne sont rien. Comment s'appellent ces propos? Comment pourrait-il se caractériser? Vous dites du mépris? Ben non, puisque le fasciste, c'est l'autre. À moins, bien sûr, qu'on nous ait menti. Mais ça, c'est pas possible, a-t-il. Hein? Rassurez-moi.
Le débat est lancé. Le débat est lancé, mon cher maître Fabrice Divisio. Absolument, le débat est lancé. Je sens que ça va faire réagir nos auditeurs. Et le débat est lancé, puisque, effectivement, vous le savez, au 01 53 48 3000, c'est aussi ici que ça se passe. Merci, maître Fabrice Divisio. À très bientôt, tout de suite, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face est avec celui qui revient parmi nous, Aklim Elouli, qui est maire adjoint sur Bonneuil-sur-Marne.
Sur Marne, oui.
Absolument. Comment ça va, mon cher Aklim?
Ça va très bien, mon cher Adil. Et très heureux de retrouver nos auditrices et auditeurs de Beurre FM, depuis un moment.
Hein? Bah exactement.
Face à vous. Je crois que j'avais un barrage aussi. Moi, je me suis dit, tiens, fais gaffe.
Oh, c'est la clochette. Hein, oui. La droite, une clochette. C'est tout de suite. Hein, tout de suite. Face à vous, enfin face à vous, vous en avez deux autres. Hein. Raed Chaibi, le président de l'association franco-tunisienne. Bonjour, monsieur le
bonjour
président.
Bonjour Adil, bonjour à ceux qui nous écoutent très bien.
Enfin, Jean-Claude
Félix. Ça pourra aller mieux.
Ça pourra aller mieux. Jean-Claude Félix Chikaya, qui est chercheur au sein de l'IPSE, qui ne saurait tarder. Dans une poignée de minutes, on va démarrer ce débat avec messieurs. Est-ce que vous avez suivi la conférence de presse de Marine Le Pen?
Alors moi j'étais en rendez-vous, donc j'ai pas pu tout suivre, mais j'ai regardé un peu les retours, voilà, mais j'ai pas pu tout suivre.
Bon, alors, on va commencer par parler de ce premier sujet. Emmanuel Macron qui promet une toute nouvelle méthode, de gouvernement pour élargir. Il veut élargir et rassembler. Comment vous l'entendez? Comment vous le percevez, vous, Éclie Mélouli? C'est très important, parce que moi ce qui m'a frappé, c'est que ces derniers jours, nos auditeurs, ça m'a frappé et en même temps ça m'a interrogé. Les auditeurs qui se disent prêts à voter Marine Le Pen, ici,
oui.
Il y en a de plus en plus considèrent que c'est normal et qui disent que, voilà, ils veulent faire barrage, non pas à Marine Le Pen, mais j'ai l'impression à Emmanuel Macron. Alors, il faut qu'on comprenne certaines choses. N'oublions pas que Marine Le Pen, ça reste l'extrême droite, les amis.
Oui, mais il faut comprendre aussi, il faut que Emmanuel Macron entende aussi ce qui s'est passé. Et ça fait à peu près 9 ans qu'on fait monter le Front National. Il faut quand même savoir qu'on n'a jamais été à un taux aussi haut. Et si on continue comme ça, on va finir par l'avoir malgré la force de crier au loup. On l'aura. Donc il faut, aujourd'hui, à mon avis, l'important, c'est qu'il entende cette colère. D'ailleurs, dans le précédent quinquennat, il n'a pas été mirobolant dans la façon de gérer les choses, y compris avec les gilets jaunes, etc. Donc il va falloir qu'il change de méthode. Ça, c'est important. Dans le dialogue social, il n'a pas été non plus... il n'a pas été efficace aussi. On ne peut pas l'enlever. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, effectivement, moi, je suis clair. Aucune voix pour le Front National, que ce soit le RN, qu'il soit déguisé en agneau, etc. Le loup, pour moi, reste loup.
Heureusement, le contraire m'aurait étonné, cher ami.
Je finis. Mais il doit entendre aussi ses jeunesses. Parce que Mélenchon a fait quand même un truc. Et ça, c'est qu'il a levé la jeunesse qui est venue voter. Il y a des gens, moi, dans le bureau de vote que j'ai vu, qui étaient des jeunes qui arrivaient pour la première fois et qui venaient, effectivement, parce que eux aussi ils souffrent, ils vivent difficilement. Les droits d'inscription à la fac qui ont été augmentés, qui sont d'ailleurs indécents pratiquement. Et le droit à l'éducation, c'est un droit dans une démocratie. Et donc on peut pas exclure par l'argent un certain nombre d'enfants qui n'ont pas malheureusement les moyens, qui ne sont pas nés. Parce que eux, leur service public, c'est leur bien. Et donc il faut qu'ils travaillent là-dessus. La retraite à 65 ans...
Vous êtes en train de me dire qu'il arrive trop tard.
Non, il n'arrive pas trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour entendre. Et moi, je dis que si, il a dit là sur la retraite à 65 ans, avant le Covid, je parle en terre parce que les rapports sont là, la sécu était à l'équilibre. Et si on va vers le plein emploi, il n'y aura pas de problème de financement. Donc je ne vois pas cette précipitation, sauf à en faire un marqueur, les APL, l'impôt sur la fortune, alors qu'il dit nos vies valent mieux que leurs profits, et il a supprimé l'impôt sur la fortune.
Sur la réforme des retraites, Macron est prêt à évoluer.
Pourquoi il est prêt à évoluer? Parce qu'il entend aussi ce que disent les syndicats. Bon, la CFDT a appelé, mais la CGT se pose des questions, notamment sur ce marqueur-là, qui est un marqueur difficile. Et donc, s'il souhaite aujourd'hui avoir effectivement les voix d'une partie de la gauche, parce qu'il y a des gens qui voteront pas, et moi je peux entendre la colère, mais il faut faire attention que l'amertume et la frustration ne nous entraînent pas dans les bras de gens qui sont plus dangereux que ce qu'on est censé vouloir combattre. Mais, en l'occurrence, lui, il doit donner des gages et des signes à cette gauche. Et parce que, en fait, quand on a vu les résultats, on peut se rejeter la faute. J'ai vu tout le monde commence un peu... il ne faut pas confondre l'émotion et la déception d'une élection et le projet politique. Parce que sinon, on n'avance pas. Mais il faut qu'il entende qu'aujourd'hui, la gauche... dans ces élections, contrairement à ce que vous annoncez, elle est majoritaire. Quand on la cumule, je parle, elle est majoritaire. Elle est la première force de ce pays, alors que la France, normalement, est à pied qui est à droite. Mais dans cette élection, en tous les cas, avec ce pôle d'extrême droite qui apparaît, elle est la première force démocratique, s'entend. Hein, je ne parle pas de l'extrême droite et de Zemmour qui va ensemble. Et donc ça, il va falloir qu'on l'intègre.
Qu'on l'intègre, je voudrais qu'on fasse un tour de table et accueillir... Tiens, bonjour Jean-Claude Félix-Chikaya.
Bonjour Adil, bonjour tout le monde. Bonjour.
Chercheur au sein de l'IPSE. Comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver.
Ça va. Désolé pour ce petit retard.
Ça fait un bail.
Oui, c'est vrai. Mais je reviens avec plaisir.
Ça fait longtemps, cher ami.
J'étais sur des rapports de transition africaine.
Bon, vous avez raison. Voilà. Je vous écoute, Raed Chaibi.
Écoutez...
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que...
Ce que vient de dire Éclie Mélouli, c'est très intéressant.
Oui,
donner des gages. La question sociale, c'est ça? C'est la question sociale que vous mettez en avant.
Ah oui, c'est
J'ai même envie de dire, j'ai même envie de dire, pour compléter Éclie Mélouli, que non seulement il faut donner des gages effectivement sur l'aile gauche de son programme, mais aussi donner des gages aux abstentionnistes. aussi, faut pas l'oublier. Mais de toute façon, il n'a pas le choix. Quand vous faites 28% au premier tour et qu'on sait très bien qu'il faut faire 50% plus 1 pour remporter l'élection, ça veut dire qu'il y a 22 points à aller chercher. Les 22 points, faudra qu'il aille les chercher effectivement sur l'aile gauche, convaincre effectivement les abstentionnistes. Donc il y a cette nécessité d'avoir cette posture gaullienne qu'il adopte depuis dimanche soir. Donc ça c'est un fait. Maintenant, il n'a pas d'autre choix qu'effectivement d'assouplir pour essayer d'attirer. C'est un difficile exercice. Hein. Je trouve que c'est assez courageux de sa part, mais néanmoins, j'espère qu'il n'est pas trop tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard, parce que ce qu'on a beaucoup reproché au président de la République, candidat, mais également à son entourage, c'est cette espèce de grandeur, de superpuissance qui faisait qu'on était tellement superpuissant qu'on n'écoutait pas la base. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ça doit engendrer de l'humilité et montrer que, comme quoi, c'est toujours important de garder la base avec sa base et surtout d'être à l'écoute. Donc c'est pour ça que j'espère que le 24 avril prochain, les électeurs qui ont fait confiance à Jean-Luc Mélenchon, et ils sont nombreux, sauront faire vraiment la différence entre le candidat Macron et le candidat Le Pen, la candidate de l'extrême droite, parce que même si on change le nom du Rassemblement National ou du Front National, ça reste l'extrême droite, et que le remède serait peut-être plus douloureux que le mal. Première chose. Mais la deuxième, et là aussi je rejoins encore une fois Akli Mellouli, c'est que il y a des gages à donner. Je pense notamment à nos quartiers populaires qui ont voté très massivement pour Jean-Luc Mélenchon, qui arrivait en tête dans mon département, par exemple la Seine-Saint-Denis, mais également dans les territoires d'outre-mer, dans les départements et territoires d'outre-mer. Il faut aussi savoir écouter ça. Et puis effectivement, savoir écouter les colères. Il commence à l'écouter en tout cas, mais voilà, il reste 10 jours et il faut vraiment effectivement poursuivre dans cette nécessité d'ouverture.
Poursuivre dans cette ouverture, la stratégie d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle est la bonne en ce moment, Jean-Claude Fitchikaya?
Oui, je pense que là, il est obligé de revenir à son...
Beaucoup plus de déplacements maintenant.
Oui, programme. Mais il est obligé de revenir à son...
Exactement.
À son projet initial de 2017, c'est-à-dire un nouveau monde. C'était un bon diagnostic, sauf que, bien sûr, on est à peu près 200 pays, 193 à l'ONU, tout le monde n'a pas la même vision du monde, et il doit mettre... au sein même de et au cœur même de son projet, répondre à la question sociale. Là arrive un slogan comme le pouvoir d'achat, mais c'est plus que le pouvoir d'achat qui manque, c'est le pouvoir social et économique, c'est le pouvoir social. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement envie en tant que citoyen de devenir des consommateurs et des clients, mais avoir le pouvoir social, l'autonomie, s'émanciper. Le pouvoir social et économique, c'est-à-dire ne pas seulement remplir son caddie, mais avoir une certaine autonomie sociale et économique pour pouvoir payer d'autres choses qui permettent d'acheter un livre, d'aller au cinéma, d'aller en vacances, d'avoir une autre attention à l'égard de ses enfants. Et je pense que là, on est peut-être à la veille d'une insurrection sociale.
Vous m'excuserez, Jean-Claude.
Quel que soit le résultat, je reviendrai après. Ouais.
Juste, je lance la pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, merci si vous venez de nous rejoindre, c'est avec Akli Mellouli, avec Jean-Claude Fitchikaya, mais également les informés, c'est aussi avec Rayed Chaibi. Je vous redonne, comme promis, la parole, Jean-Claude Fitchikaya, concernant évidemment beaucoup plus de déplacements, le projet contre projet, celui de Marine Le Pen, celui d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va falloir reprendre évidemment cette question sociale? J'ai bien aimé votre expression, le pouvoir social et économique.
Oui, c'est plus que le pouvoir d'achat. Il s'agit de répondre à la question sociale. Et on voit bien les électeurs qui ont voté pour Mélenchon, c'était donc comme ça a été dit tout à l'heure, si on additionne même une gauche qui est dans une certaine décrépitude, mais avec Mélenchon, c'est pour la question sociale qu'ils sont allés vers Mélenchon plus que pour sa radicalité. Et malheureusement, certains se trompent et vont vers la question sociale, vers Le Pen. Mais Le Pen, c'est quand même toute une histoire, c'est le Front National, c'est un pouvoir raciste, c'est un pouvoir réac,
populiste et fasciste. Il faut revoir son histoire. Exactement. Moi, tout à l'heure, on parle pas, on voulait ne pas parler d'émotion, mais moi, je suis encore ému parce que quand je nous vois là ici, on a souvent ici dans cette radio progressiste et ailleurs, on s'est retrouvé dans des combats contre le Front National parce que c'est plus qu'un adversaire, c'est un ennemi. Il distille, il instille des idées racistes. Et pourquoi Mélenchon fait aussi un super score? Parce que la campagne a été jalonnée avec son collègue Zemmour, a été jalonné de paroles islamophobes, racistes. Bon, beaucoup sont allés vers Mélenchon, qui n'est pas raciste ni islamophobe, mais qui est républicain et démocratique.
Explique qu'il a été plébiscité dans les quartiers populaires.
Il faut garder l'équilibre et la cohérence. On ne peut pas aller pour les mêmes raisons pour la question sociale et contre le racisme pour Mélenchon, et par vengeance et revanche, entre guillemets, qui serait, je pense, pas assez abouti, certains iraient vers Le Pen. C'est pas possible. Bon. C'est pas possible. On peut pas en 15 jours voter pour Mélenchon, qui est contre le racisme.
Exactement.
Et qui est un adversaire depuis la politique contre le Front National, et le Front National a une histoire dans notre pays. Donc, à un moment, faut rappeler les fondamentaux. Je rappelle. Honnêtement, il y a aussi l'émotion et le cœur et la conscience politique qui parlent, pas seulement en tant que chercheur. Je pense à Malek Oussikine, je pense à tous ceux qui sont morts par des militants du Front National. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et tous les collègues et partenaires européens et mondiaux de Marine Le Pen, ce sont des partis et des régimes au pouvoir, réac, populistes, extrémistes et racistes.
Akli, je vous donne la parole, promis, dans une poignée de minutes. C'est juste, je suis obligé de lancer le deuxième Quoi de Neuf qui nous attend tout de suite.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, vous le savez, c'est avec le docteur Majid Séhoussine. Bonjour mon cher docteur.
Bonjour Adil.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides et au SAMU. Nous vous écoutons, à vous pour le billet, chacun en aura pour son grade. On vous écoute.
Mon cher Adil, on prétend qu'à la date du 14 juillet 1789, le roi Louis XVI écrivit dans son agenda « rien ». Gageons que ce n'est probablement pas ce qu'écrivit le président candidat, pour peu qu'il eût un journal intime. Ce premier tour restera comme ces petits clous sur lesquels on roule parfois et dont on se rend compte pas tout de suite qui nous ont crevé le pneu. On peut certes encore rouler des kilomètres, mais inévitablement la voiture finit par s'affaisser sur sa jante. C'est ce qui pourrait arriver à ce pays si on n'y prend pas garde. Anne Hidalgo vient de ruiner le Parti Socialiste comme elle avait déjà ruiné Paris, où seulement 2,18% des Parisiens ont voté pour elle, avec un score digne d'un parti trotskiste. Elle va pouvoir enfin réaliser un seppuku sur la place du Trocadéro, ce suicide rituel où le samourel se plante une dague dans l'abdomen avant qu'un proche lui tranche la tête. Il semblerait qu'on ait vu Rachida Dati sortir d'une armurerie avec un sabre traditionnel japonais.
Vous avez le droit à la clochette, vous.
Allez, la clochette pour Rachida, ça c'est...
Valérie Pécresse, quant à elle, s'est élevée au rang d'un Tchernobyl électoral dont les radiations risquent de faire muter une partie des Républicains.
Il est fou, ce docteur.
Les radiations risquent de faire muter une partie des Républicains, dont Ciotti, dit le beau frisé.
Clochette, oh là 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 là. Oh là là, c'est pas possible ça.
Dites, t'es en forme, hein.
Voilà. Risque de faire muter donc une partie des Républicains en membres du Rassemblement National. Un chauffeur de taxi m'a dit avoir croisé Valérie Pécresse, porte de la chapelle, avec un foulard sur la tête, la main tendue, se faisant passer pour une réfugiée syrienne, tentant dans une manœuvre désespérée de combler par la charité le trou dans les finances de son parti. D'ailleurs, cette campagne était assez particulière pour elle, puisqu'on n'a jamais compris comment une femme aussi intelligente ait pu dire autant d'inepties. Le pauvre Jadot, quant à lui, a raté la performance de montrer que les Verts, qui ont tout pour enchanter la France avec l'écologie, n'ont pas su mûrir pour représenter une alternative crédible. Mmh. Ils préfèrent gloser sur le wokisme, les luttes intersectionnelles, et tous ces mots qui font brancher dans un café de la rue Oberkampf, mais laissent froid l'électeur lambda.
C'est incroyable.
Prend peur parfois quand on lui parle d'homme déconstruit, croyant qu'on veut fabriquer un nouveau Frankenstein.
Oh, punaise.
Ce pauvre monsieur Z, qui se voyait déjà Napoléon le Grand,
ah, ça, c'est
se trouve réduit à un nabo Léon, le petit, avec ses 7%.
C'est ça.
7% qui lui permettent quand même de ne pas casser sa tirelire, bien garnie par la vente de ses livres. Mais ne lui permettent pas, en tout cas, de vous remettre dans le bateau, mon cher Adil. Pourtant, le soleil nous aurait fait du bien.
Ah, ça, c'est sûr.
Madame Le Pen, quant à elle, s'en sort bien. Elle s'échauffe pour le grand débat du 20 avril et elle a pris comme coach un yogi venu du Tibet avec un visa de touriste pour lui apprendre à rester zen et à ne pas s'énerver. Quant au président candidat, il est ravi d'échapper au plus talentueux des débatteurs, Mélenchon, dont le score vaut largement plus que la troisième place qui lui échoit. Emmanuel Macron prendrait, paraît-il, des cours avec un professeur de gymnastique qui lui apprend à marcher avec sa jambe gauche. Il paraît qu'il boite un peu, car les séances sont difficiles pour lui.
Bien sûr que le chat est obligé, là.
Les séances sont difficiles pour lui et il aurait des ampoules sous la voûte plantaire de son pied gauche. Que voulez-vous, mon cher Adil ? C'est comme ça quand on n'a pas l'habitude.
Ah, c'est ça, effectivement. Bravo pour ce billet. Bravo. Excellent. On peut l'applaudir.
Majid, excellent. Hein.
Excellent. Hein, vous nous avez fait. Oui, bien sûr.
Oui, juste dire que on l'a.
Je remercie.
Ah oui,
Majid. Majid, merci à vous. Ah,
excuse-moi. Merci à vous.
Merci à vous. Majid,
docteur. Merci, docteur Majid Soussine. Hein.
À votre service.
Prenez soin de vous.
À bientôt.
À bientôt. C'était le Quoi de Neuf.
Juste avant.
Oui, dites-moi, Jean-Claude Fexicay, avant de donner la parole à Akli Mellouli.
On l'a dit souvent ici, qui ratait la question sociale. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est bien la résultante de son raté. De la question sociale et de son exact. Côté trop souvent arrogant et en surplomb, cela lui est rappelé à l'ordre, même par les abstentionnistes. C'est-à-dire que des abstentionnistes sont abstentionnistes parce qu'il y a eu trop d'arrogance et parce qu'il n'a pas répondu à la question
sociale. Je pense qu'il va falloir il faudra que Emmanuel Macron apprenne à se réinventer lui-même. Je pense que ça, c'est important dans la perspective d'une éventuelle victoire.
Akli Mellouli.
Moi, c'est dans ce sens-là. Il y a une chose aussi qu'il faut quand même bien noter, c'est que moi, on disait que les gens ne votaient pas, l'abstention, les quartiers populaires,
c'est
les
jeunes,
les Français de confession musulmane qui se faisaient insulter en permanence. Là, ils ont démontré qu'ils venaient aux urnes. Donc il va falloir compter avec eux, et ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça suffit d'être insulté en permanence, que des gens tiennent la salle d'avion, parce qu'on a vu qu'il y a des propos racistes, etc. Donc il faudra que aussi le président se prononce là-dessus. Parce que les deux qui ont été clairs dans les débats, et qui ont tranché de façon républicaine, contrairement à ceux qui voulaient les entraîner dans le communautarisme ou le wokisme et tout ça, les deux qui ont tranché, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été très clair quand on lui a posé la question, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, mais il a été très clair. Et... Sandrine Rousseau, chez Les Verts, qui a été aussi très claire, chaque fois qu'elle a posé la question. Donc ça, c'est important qu'il soit clair.
Yannick Jadot aussi.
La gesticulation, même Macroniette gesticulait beaucoup, même si elle n'est pas virulente, etc. Si on sait, je taxe pas de quoi que ce soit, mais je pense que c'est de ces deux-là. Alors, ensuite, il a raison quand Majid Silosine parle de jambe gauche, qu'il fait boiter tout ça. Moi, je crois qu'il a raison. Il doit non seulement se réinventer, mais réenchanter. Parce que si il va avoir une responsabilité historique, j'espère qu'il maîtrise bien la responsabilité historique si les gens lui font confiance. Cette responsabilité historique, c'est de réconcilier le peuple de France. C'est de réconcilier tous les Français dans leur diversité et de ne pas permettre que dans 5 ans, on se retrouve avec la même histoire et on rejoue le même truc. Et pour cette fois-là, ce sera un peu trop tard. Donc je pense qu'il a une responsabilité historique et qu'il doit aujourd'hui retrouver l'humilité, le sens du dialogue et le respect des institutions, parce que c'est ça qui fera la différence. Et de les engagements qu'il va prendre là, même s'il s'adoucit sur la gauche, ce sont des engagements qu'il doit prendre en responsabilité mais qu'il doit mettre en œuvre. Sinon, on ira à la catastrophe.
La vraie catastrophe, effectivement. Jean-Claude Fichikaya.
C'est un moment historique.
Oui, c'est un moment
pour
historique.
Tout le monde. On a une co-responsabilité.
Mais quand il est prêt, quand il dit Emmanuel Macron qu'il est prêt à revaloriser certaines choses, y compris à bouger, à rebrousser chemin. Sur la réforme des retraites.
Mais ça, c'est intéressant. Et le fait que certains lui disent, aucun sont en train de leur dire, ouais, mais il bouge maintenant parce qu'on lui a dit, mais c'est ça la démocratie. Des fois, t'es poussé à changer. Et puis, tu peux faire rétro-pédaler et même changer, acculer, tu avais pas prévu. C'est aussi ça la démocratie et savoir entendre le peuple. Le seul problème, c'est qu'il le fait pendant entre les deux tours, donc on peut lui dire que c'est par opportunisme ou non. Moi, je pense que il est même son opportunisme ne pourra pas vivre parce que il est acculé par la réalité politique qui lui demande de répondre à la question sociale. Parce qu'on voit bien que la bipolarisation a fait place à une tripartisation, c'est-à-dire qu'il y a trois partis EM qui n'existent pas beaucoup, qui lui a pas donné beaucoup de biscuits sur le plan politique, et c'est pour cela que sa performance est assez remarquable, parce que assez seul, il arrive quand même premier avec un résultat positif rarissime dans l'histoire de la cinquième, dans l'histoire de la cinquième république, avec un parti aussi faible.
À la différence, attendez, lui, il a pas de réserve en réalité. Quand tu regardes, il a pas de réserve. À l'époque, à gauche, par exemple, quand la gauche faisait un parti de vote, ils avaient une réserve.
Oui, mais on est dans une reconfiguration.
J'entends.
On est dans une reconfiguration.
Il arrive, il est.
Il n'est pas le seul à pas avoir de réserve. Non mais regarde les partis de gauche qui ont fait des petits scores.
Attendez. Juste ce que je veux dire, Jean-Claude, tu as raison, mais juste un truc que je veux dire. C'est que lui aujourd'hui, il est à 28. S'il n'arrive pas à aller chercher les voix en entendant les Français qui ont voté, il n'a pas de réserve. Marine, elle va compter sur les voix d'une partie de Ciotti et puis de celle de Trucquel. Elle est devant, si tu en entends de voix. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est à la fois, tu dis, c'est remarquable, je dis qu'il faut être modéré. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste qu'en termes de. Pour être élu, c'est 50,1.
Je disais que c'était remarquable avec un parti qui était peu atone et qui n'était pas une boîte à idées.
Atone ou à la ramasse, c'est le mot.
Comme tu veux, choisis à ta guise. Alors qu'on peut parler du PS et autres, c'est parce que aussi ces partis ne sont plus des boîtes à idées, ils ne se sont pas réinitialisés. Lui aussi doit se réinitialiser, se mettre à jour tel un smartphone. Et je sais pas, son slogan, ça pourrait être le Nouveau Monde numéro 2, parce que lui aussi, il doit travailler à son argumentum, mais toute la classe politique et tous les citoyens. Parce qu'un citoyen qui peut voter qui peut voter ce dimanche pour Mélenchon, et dans 15 jours, qui dit qu'il est prêt à voter pour Le Pen, c'est pas un vote politique.
C'est un vote
réactif.
Après, je lance la pub, messieurs.
Citoyenne,
et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. Les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite dans les informés, 01 53 48 3000. Vous le savez, c'est ici que ça se passe dans les informés, avec Akli Melouli, enfin avec Rayed Chaibi, et mais également aussi avec Jean-Claude Fitchikaya. Vous disiez quelque chose qui m'a interpellé, Jean-Claude Fitchikaya, c'est qu'effectivement ceux qui ont voté pour Mélenchon voteront certainement aussi pour Marine Le Pen, et c'est une réaction non pas politique mais une réaction populaire, effectivement. Alors je vous pose la question aujourd'hui, n'est-ce pas dangereux aujourd'hui de voter Marine Le Pen? Le danger Marine Le Pen existe-t-il réellement?
Mais bien sûr.
Comme
a dit Bertrand Delanoë, Le Pen dit tout bas ce que Zemmour dit tout haut. Il pense la même chose. C'est un appendice du RN. C'est une excroissance du RN, Zemmour. Donc on voit bien. Mais c'est net et clair. Regardez leurs alliances. Avec qui a fait alliance à l'Union européenne? Avec qui a fait alliance?
Avec qui a fait alliance
sur le plan géopolitique?
Il faut revenir à l'histoire.
Donc on peut ripolliner, repeindre, échanger rideau, repeindre.
Donc chers amis auditeurs, faut réfléchir repeindre.
Moi, je veux bien qu'on en veuille sur les ratés, sur les manquements du président Macron. Là, il est obligé de prendre en compte la question sociale. D'ailleurs, il parlait ce matin de manière assez pertinente que son deuxième mandat et dernier doit être le mandat de l'audace et surtout d'un débat permanent. Et on voit bien qu'il rétropédale. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatigue démocratique, mais une fatigue aussi au travail. Donc tu peux pas demander, dans cet état social dont le corps social se trouve, de demander aux gens de travailler jusqu'à 65 ans. Donc, non. Intelligemment, il recule. Parce que s'il recule pas, ceux qui sont contre ils vont avancer dans l'urne vers son adversaire.
Il a reculé, il a été jusqu'à 62 ans. 62 ans, il a été par étapes.
Oui, 62 par ans, 64. Globalement, 62, les Français sont plutôt sur les 62. Globalement, ouais. les dernières études démontre que les Français sont en capacité mentale et philosophique de dire qu'on peut aller jusqu'à 62.
Ouais, mécaniquement, quand tu as 62, il faut savoir aussi, les gens ne comprennent pas, pensent que c'est l'âge de départ. Mécaniquement, quand tu as 62, vu les carrières longues et tout ça, et il faudra parler aussi de la pénibilité, mais les gens, à 62, ils ont pas quand ils n'ont pas le top plein, ils sont obligés de pousser à 60, 67. Donc aujourd'hui, le top plein, il est à 67. N'oublie pas qu'aujourd'hui, avec la retraite aujourd'hui,
minimum vieillesse, qui peut être à partir de 65.
Quand tu démarres plus tard, c'est normal.
Voilà, non mais, oui, mais.
Si on démarre plus tard.
Pourquoi tu démarres plus tard? Il y a des trous
dans la raquette, les gens, il y a des difficultés. Il faut savoir. Et d'ailleurs, en plus, on dit qu'ils veulent faire travailler les gens, mais aujourd'hui, les gens à partir de 55 ans, ils sont au chômage. On les embauche plus. Donc il y a une vraie.
On les met au chômage technique.
Faut changer, en pré-retraite et compagnie.
Faut changer de prisme et de paradigme.
Voilà.
Au sein de la population, au sein du champ économique, quelle responsabilité? Parce que je vois que les grands patrons, le MEDEF, le soutient, il n'a pas encore le quitus des petites et moyennes entreprises, donc il faut vraiment qu'il revoie son projet. D'ailleurs,
alors, il faut quand même, il parlait effectivement le Front National, le RN. Il y a le discours de Marine Le Pen qui s'est adouci. Il a été adouci par la violence de Zemmour. Mais il y a son programme. Il faut juste lire le programme parce que
oui, il faut lire le programme.
On voit bien que le programme a pas changé.
Ah, il a pas
changé.
C'est
exactement le même.
Notamment sur ceux qui nous ressemblent ici et pas seulement. On va pas parler seulement de nous parce que nous sommes des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Après, on est respectueux et fiers de toutes nos composantes identitaires et nous sommes français. Mais on a aussi des personnes dans nos familles, mais qui sont aussi pas de nos familles, qui sont étrangers et qui se doivent d'être respectés. Et on sait bien que le Front National, il dit bien que ceux qui ne sont pas français et certains, on voit bien ce qui a été dit sur l'Ukraine, ils auraient les mêmes voitures, les mêmes yeux, la même religion, ceux qui viennent, vous voyez, il y a une Afrique
très important de le rappeler.
Et autres. Donc il est important de se rappeler les choses. Je peux comprendre la colère, je peux comprendre l'école. Beaucoup sont exaspérés. C'est pour ça qu'on est peut-être à l'aube d'une insurrection sociale, quel que soit le résultat. Si, pendant les 15 jours, il ne muscle pas son programme sur la question sociale.
Son pouvoir social et économique.
Je pense qu'il faut donner du pouvoir social. Les gens ne sont pas des consommateurs, des clients seulement. Il faut donner du pouvoir. Ça donne une autonomie à des familles et aux individus.
En fait, le résultat...
Le danger existe-t-il?
Oui, bien sûr. Mais pour rien, parce qu'il y a beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de les reprendre rapidement. Il ne faut quand même pas aussi oublier, même si faut pas non plus rester trop longtemps dessus, c'est que effectivement le score qu'il a réalisé dès le premier tour, c'est quand même un score à saluer, 28% au premier tour. Oui. Il faut remonter effectivement, comme vous l'avez dit, à 88, Mitterrand qui avait fait 34% des voix pour avoir un score aussi haut. Mais paradoxalement, le score de Emmanuel Macron ne reflète pas la réalité. Parce que même s'il arrive effectivement en tête au premier tour, malgré tout, le travail qui va être accompli pour la victoire, c'est pas forcément, ça donne pas un ticket pour gagner au second tour. Après, sur la question des retraites, il y a une réalité. Alors, c'est là où c'est très complexe en réalité. Et malheureusement, c'est là où on voit que peut-être que la pédagogie d'avant premier tour aurait peut-être été utile. C'est que, il y a un fait, c'est que la retraite doit être réformée. Clairement, on voit bien que
financé
parce que aujourd'hui
les promesses des uns et des autres
bien sûr,
qui ne pensent pas à vous
parce que les seniors et fort heureusement vivent plus longtemps et malheureusement à côté de ça nous avons de moins en moins d'actifs qui rentrent sur le marché du travail. Donc il y a de deux choses l'une, soit on baisse les pensions, soit on augmente la durée de cotisation. Le candidat ne souhaite ni aller vers l'un ni aller vers l'autre. Il reste plus que l'allongement entre guillemets, le recul de l'âge de départ. Mais comme il n'y a pas eu de pédagogie, parce que c'est aussi ça la réalité, comme il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie, ça crispe. Et donc, il y a nécessité, surtout dans cet entre-deux tours, on a besoin de donner des gages, d'avoir, et ça je pense que je suis assez favorable là-dessus, et il a eu raison de dire cela, tous les champs sont ouverts et qu'il y a nécessité de discuter pour trouver la meilleure solution. Donc, il y a le côté, il y a une réalité de réformer les retraites, pas n'importe comment, à pas n'importe quel prix, parce qu'effectivement, ça crispe et ça peut engendrer le résultat qu'on n'espère pas au second tour. Et pour finir, s'agissant de cet électorat de gauche ou de l'électorat de Mélenchon qui pense à voter pour Marine Le Pen, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, je rejoins Jean-Claude là-dessus, c'est que ne vous trahissez pas vous-même. Si effectivement vous vous êtes reconnu dans un candidat qui portait des valeurs républicaines, que l'on soit d'accord ou non, je n'ai pas forcément voté pour Mélenchon au premier tour, mais c'est vrai qu'il a eu une posture, il a su écouter, je le dis, il a su écouter, peut-être aussi avec une pointe de récupération politique, peu importe, mais il a su capter l'attention de ces territoires entre guillemets oubliés. Au second tour, ne faites pas cette erreur de vous trahir vous-même. Ne faites pas cette erreur de faire confiance par la colère à une personne qui n'a aucune considération pour vous et même pas pour ce que vous êtes. Et ça, c'est important de le rappeler.
On fait un tour de table. C'est très important.
Et je voudrais dire, pour compléter, Paris, dans les quartiers les plus riches, il est premier ou deuxième, Mélenchon. Et les personnes, donc sur les études qu'on commence à faire, nous disent,
c'est incroyable,
on a de l'argent, on a riche, eux, ils ont un pouvoir social et économique, ils ont voté Mélenchon, pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il faut répondre à la question sociale et arrêter de taper sur ceux qui ont moins d'argent, pas seulement les Noirs et les Arabes, parce qu'on n'est pas pauvre de manière intrinsèque, mais ils veulent que la République soit républicaine. Et même lui, ils ont vu qu'il avait aussi changé son discours et qu'il avait même renié certaines de ses attitudes, de ses positions à l'égard de Poutine ou d'autres géographies géopolitiques, et que lui-même, il était obligé de se reconfigurer sur le plan politique. Donc c'est pas seulement une reconfiguration. C'est pour ça que je dis qu'il y a une co-responsabilité. Les quartiers riches, c'est la première fois, sauf quand au temps de Gaulle, se sont mis du côté de la question sociale. On en revient presque à qu'après-guerre qu'on a dû, quand Jean Zay et De Gaulle et autres ont mis en place la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est un moment historique où il y a l'éco-responsabilité, et n'oublions pas le champ économique qui va devoir aussi faire des efforts pour financer la sécurité sociale, financer aussi la question la sécurité sociale et autres, parce qu'ils se gavent, et ça participe à l'exaspération. Exactement. Et malheureusement, exaspération qui peut faire à des électeurs un grand écart qui peut être périlleux.
En fait, il faut savoir qu'en fait, faut attention, parce que la sécurité sociale n'est pas déficitaire. Moi, je vous le dis parce que c'est important, parce qu'on dit tout. Et la sécurité sociale, on lui fait supporter beaucoup de choses qui ne sont pas d'ailleurs dans l'ensemble. Donc attention, que sur les budgets, quand on manie les chiffres,
il faut regarder. Contraire.
Voilà. Non mais on peut raconter ce qu'on veut pour essayer de vendre quelque chose. Donc aujourd'hui, effectivement, si on va vers le plein emploi, on aura des cotisants. La question aujourd'hui, c'est effectivement ce pouvoir d'achat, les fins de mois, comme la fin de vie. Mais aujourd'hui, effectivement, ces questions sont importantes parce qu'elles sont des questions de cohésion sociale. Les gens qui sont effectivement aisés ne s'y trompent pas. Si la violence augmente, c'est la précarité, les difficultés
font que les gens, voilà, le pouvoir social.
Et donc c'est pour ça que les gens, c'est important. Et quand Mélenchon revient sur quelque chose qui était aussi gaulliste, puisqu'on parlait de fibres et tout ça, qui était l'encadrement des prix. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser s'envoler les prix. On ne peut pas acheter 1 euro et vendre à 3. Il y a un moment donné, il va falloir aussi que l'État, c'est son rôle. Parce qu'en fait, l'égalité, qui est dans la truc république, ce que fait Mélenchon, l'égalité, c'est une garantie de l'État. C'est pas un supplément d'âme, c'est pas un gadget. C'est à l'État de garantir l'égalité. L'égalité devant les prix, devant l'énergie, devant... Et l'égalité, c'est l'équité, en fait, aussi. C'est l'équité, c'est en fonction de ses moyens. Il y a qu'en fait, aujourd'hui, à l'hôpital... quand vous allez à l'hôpital, vous cotisez, alors c'est que vous cotisez en fonction... Les gens cotisent en fonction de leurs moyens, et ils puisent en fonction de leurs besoins. On peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas les moyens qui ne pourra pas se soigner. On l'a vu avec le Covid. Donc il va falloir effectivement que tout ça, et c'est de l'économie, parce que derrière ça, on nous dit oui mais c'est à peine. Non, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui payent après des impôts, qui consomment. Et donc
c'est emblématique,
contrairement à ce que les gens disent, c'est de l'économie. Et comme la culture, le sport, c'est de l'économie. Il faut qu'on arrête de penser économie que en matière de production industrielle, que
Messieurs,
de productivisme.
S'il vous plaît,
un service public, parce qu'il a fait quelques gestes.
Que fait-on maintenant ?
Alors qu'il avait dit qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et les soignants n'ont pas lâché, ils ont eu raison, ils ont été aidés malheureusement par la pandémie. Donc il va falloir qu'ils refinancent une politique à l'égard de la santé publique beaucoup plus robuste. Mais pareil sur la supranationalité, c'est pas seulement une question national, c'est aussi être plus fort sur le plan européen et sur le plan mondial, parce que la France a une vision du monde, a une place dans le monde, mais il doit aussi se réinitialiser sur son rapport à l'Europe et au monde.
Chaby, oui. Je dois rendre l'antenne.
Après avoir
qu'est-ce
fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire,
j'allais dire justement que sur les questions internationales, là aussi c'est intéressant, je vois les gens qui sont d'un côté ou de l'autre. Moi je pense qu'entre les États-Unis et la Russie ou la Chine, la France doit être la France. Entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, la France doit être la France.
Exactement.
Il va falloir que la France retrouve sa place et surtout la patrie des droits de l'homme.
S'il vous plaît, Ariel Chaibi,
Après avoir fait ces constats, il faut juste se mobiliser partout sur nos territoires. Il faut savoir se mobiliser et surtout, ne trahissez pas vos convictions, n'allez pas vers l'extrême droite.
Merci infiniment. C'était une belle émission. Vraiment, merci à Jean-Claude Ficaya, chercheur à l'Ipsos. Merci à Clément Louli.
Merci
à Ariel Chaibi. À demain, avec autant de plaisir. Merci à la réalisation Yanis. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.